Plus ou moins conscient des risques, tout en se disant voilà, ça n'arrive qu'aux autres, et ça ne m'arrivera pas.
Contrairement à Julien, le conducteur que nous venons d'entendre, Didier, lui, n'a pas connu d'accident. Il lui arrive de boire quand il prend le volant.
Sim, qu'à partir du moment où j'ai pris un verre, mais je rentrerai chez moi en ayant toutes les règles de prudence. C'est-à-dire, en fait, je ralentis mon rythme, je vais en regardant, en faisant bien attention.
Les personnes qui prennent la route en ayant bu ont passé leur soirée chez des amis, dans un bar ou dans une boîte de nuit. Pierre Masse, le patron du WAF, et André, responsable du bar au café de l'université, se rendent compte que leurs responsabilités peuvent être engagées.
Mais quand une personne arrive devant un établissement et qu'on constate qu'elle est manifestement ivre, on ne la laisse pas rentrer dans l'établissement parce qu'on ne prend pas la responsabilité que la personne dépasse ses limites.
Si nous lui servons encore de l'alcool, nous sommes responsables de son état de santé en sortant de l'établissement.
Serge Rubens, le gérant du café Le Bienvenu, et Ricardo Cerdera, serveur au Havana.
Pour ces habitués, il y en a qui prennent le volant en ayant bu ?
Oui. Chacun fait ce qu'il veut dans sa vie. Hein.
Est-ce que la responsabilité de votre café serait-elle engagée si maintenant un de vos clients habitués se crachait avec sa voiture ?
Non, je crois pas. Ça s'est déjà produit, on peut pas reprocher. De toute façon, il peut aller boire ailleurs, je sais pas s'il boit dans sa voiture. Vous avez, ici, bon, il n'y a pas beaucoup de buveurs d'alcool, ce sont beaucoup des buveurs de bière. Hein, donc,
Plein de gens, quand ils sortent de chez nous, ils vont encore au night shop à côté et ils achètent et ils continuent leur soirée. Donc, on ne peut pas être responsable pour tout le monde.
Maître d'Archambault et Maître Calloart nous éclairent sur la responsabilité des cafetiers, tant au pénal qu'au civil.
Effectivement, il y a toujours une responsabilité pénale. Donc ça, c'est l'arrêté, la loi du 14 novembre 1939 relative à la répression de l'ivresse, qui pourrait plus concerner donc, le tenancier de café, qui sont le fait de servir des boissons à une personne manifestement ivre et le fait de servir des boissons jusqu'à l'état d'ivresse de cette personne. Il risque un emprisonnement et une amende.
Des cafetiers ont vu leur responsabilité civile retenue et engagée pour avoir continué à servir de l'alcool à des personnes dont ils s'apercevaient qu'ils étaient manifestement en état d'ivresse. C'est pas toujours évident d'établir que c'est parce qu'un cafetier a continué à servir de l'alcool à quelqu'un qu'un dommage ensuite est survenu.
Certains cafetiers trouvent des solutions pour éviter de voir leurs clients reprendre leur voiture. Serge Rubens et Ricardo Cerdera.
J'en ramène quelques-uns des fois à la maison, mais bon, prendre les clés, ça nous est déjà arrivé aussi, mais bon, en grande partie, ce sont tous des gens qui habitent ici à côté, donc oui, si on doit s'occuper de tout le monde, alors on n'en sort plus.
Il y a un taxi, qui les met devant le taxi, maintenant ils le prennent ou ils ne le prennent pas, c'est autre chose, c'est selon leurs moyens ou c'est sans voiture. Ça, après, on n'est plus responsable.
Avec le développement des points vélo à Bruxelles, certains rentrent de soirée en vélo, mais est-ce vraiment une solution ? Commissaire Van de Keel.
Il faut faire attention parce que c'est un véhicule, le vélo. Chez nous, dans la zone, on n'a pas encore constaté ça. Mais donc, moi, je dirais, si vous avez bu un verre, essayez de prendre des autres arrangements. Vous restez dormir dans un hôtel, c'est aussi une solution qui est assez chère, évidemment, mais ça pourrait vous rendre une visite en plus de la ville. Et trouvez-vous un bob ou une bob.
Désigner un bob, est-ce entrer dans les mœurs ? Jusqu'à quel point les campagnes bob sont-elles efficaces ? Benoît Godard, porte-parole de l'Institut belge pour la sécurité routière.
Le bob a fait en sorte que le conducteur qui boit avant de reprendre le volant
fait l'objet de ce qu'on appelle une désapprobation sociale qui n'existait pas auparavant. Donc je m'explique. Aujourd'hui, si vous savez qu'un de vos amis va conduire et que vous le voyez boire, vous n'hésitez pas à lui faire la remarque. Ça n'existait pas il y a quelques années avant les campagnes Bob.
En soi, dans mes amis, quand on sort en soirée, il y en a un qui boira moins, mais il n'y en aura jamais un qui fera zéro alcool, quoi. Donc Bob 0%, ça n'existe pas vraiment. C'est un peu une utopie, quoi.
Concernant les campagnes de prévention, François est sur la même longueur d'onde que Pierre-Yves.
Je pense qu'elles sont plus intelligentes, mais malgré tout, je pense qu'elles sont moins efficaces. Je pense malheureusement que la répression et la coercition fonctionneront toujours mieux sur les gens et auront toujours plus d'influence sur les gens que la prévention. Mais la prévention reste utile dans le sens où elle peut instruire les gens, elle peut leur dire les dangers, leur rendre conscient des dangers qu'on encourt quand on conduit sous influence d'alcool.
Parce qu'on constate quand même qu'il reste un noyau dur de conducteurs pour qui le message passe plus difficilement.
Bertrand fait partie de ce noyau dur.
Les campagnes de pub, que ce soit Bob, que ce soit les contrôles de police, tout ce qui va avec, c'est plus... J'ai plus peur en reprenant le volant de croiser un contrôle de police pour ne pas me choper un retrait de permis un peu plus long.
Benoît Godard, porte-parole de l'IBSR.
Il faut informer les usagers des risques qu'ils encourent. Il faut les informer aussi, par exemple, de nouvelles réglementations. Donc les campagnes sont absolument indispensables, mais vont de pair, évidemment, avec les contrôles.
La prévention et la répression ne sont pas toujours coordonnées. Bertrand nous raconte son expérience.
On sortait d'une soirée, j'ai un ami DJ donc, qui avait picolé comme un arraché. Il y avait les campagnes, on va dire, Bob, qui était à la sortie de la boîte, et donc qui faisait souffler les gens un kilomètre après, gros contrôle de police, où le porte-clés, le petit papier, ont fait que nous ne nous sommes pas fait contrôler grâce à ça, alors qu'il avait facile 2,5 grammes dans le sang. Ouais.
Des actions sont très présentes durant les grandes fêtes, tout en n'étant pas négligées durant l'année. Mais il est toujours possible de les éviter, notamment via les réseaux sociaux. Commissaire Van de Keer.
Il y a une toute grande action qui se fait tous les mois, donc ce n'est pas uniquement le cas maintenant en fin d'année. Et alors il y a des petites actions qui se font de temps en temps, semaine comme ça, et qui sont selon la disponibilité du personnel entier à ces actions-là. Mais là c'est vraiment des petits dispositifs et donc ça peut se faire également en journée. Donc pour les grandes actions, là on va plutôt le faire à des moments où on pense qu'on a plus de possibilités de retrouver un clientèle qui est éventuellement sous l'influence de la boisson.
Pierre-Yves, conducteur.
Les contrôles policiers, ça dépend vraiment quand on connaît les endroits. Le problème, c'est que moi, je viens d'une petite ville et les contrôles policiers ont toujours lieu aux mêmes endroits. Donc, il suffit de détourner, en fait, passer par les petites routes et en général, on passe nickel. Donc, si on connaît les spots où les policiers sont là, c'est vraiment pas très, très intéressant vu qu'on sait où c'est. Les tuyaux se refilent. L'utilisation qu'on en fait de ces infos, ça dépend, quoi. Soit on se fait contrôler, soit on sait qu'il y a un contrôle, du coup on ne boit pas, soit on va essayer de pas passer par ce contrôle. Ça dépend. Moi, en général, je sais que s'il y a un contrôle et que j'ai l'info, je boirai, je passerai pas par cet endroit-là, quoi.
La commissaire Van de Keer en est consciente.
Mais il faut savoir que les médias sociaux, que ça mène maintenant une vie très importante, et c'est pas à éviter. Donc évidemment, moi, quelque part, moi je trouve bien que les gens s'informent entre eux, et pourquoi pas, alors ça pourrait mener au fait qu'ils vont peut-être prendre le taxi. Je suis peut-être un peu naïve là-dedans maintenant, mais je n'ai rien contre le fait qu'ils se donnent des renseignements les uns vers les autres, au contraire.
Les habitudes des jeunes changent. Ils utilisent les réseaux sociaux pour éviter les contrôles, ils sortent le week-end et consomment de plus grandes quantités d'alcool qu'auparavant. Ajoutez à ça leur manque d'expérience au volant. Mais en semaine, la donne change.
Plus la tranche d'âge entre 35 et 50 qui est impliquée, ce n'est pas le cas le week-end quand il y a des contrôles. Là, on a tendance à voir plus de jeunes qui sont impliqués entre 18 et 30 ans dans les accidents. Mais effectivement, c'est surtout la tranche d'âge entre 35 et 50 ans qui aime encore trop boire sa petite bière ou le verre de vin ou autre alcool.
Didier, client au café de l'université.
L'expérience du volant fait qu'au plus on arrive en âge, on a une expérience de roulage que nous n'avons pas malheureusement avec des jeunes de 18-20 ans, et c'est malheureux. Un jeune va boire 10 bières, il est incapable de gérer son alcool. Il va prendre le volant, il va prendre le premier tournant, il se crache.
Les jeunes, comme les femmes, sont plus sensibles à l'alcool. Ils dégradent moins vite l'alcool dans leur sang. On est en état d'ivresse dès que l'on atteint 0,5 g d'alcool par litre de sang. Ça correspond à peu près à 2 verres de bière. Mais une personne peut être en état d'intoxication alcoolique. C'est-à-dire que les effets de l'alcool se feront fortement ressentir, même si elle a bu moins que ses 2 verres. Le professeur Verbagne expose 3 cas de figure où l'on peut se retrouver à 0,5 g d'alcool par litre de sang.
Dans la première situation, vous avez affaire à une personne qui finalement est un faible consommateur. Dans la deuxième situation, vous avez une personne qui se trouve par exemple dans la situation où de plus en plus de jeunes se trouvent, c'est-à-dire une situation de binge drinking, hein, donc une consommation aiguë d'une grande quantité d'alcool, mais qui s'est passée 5 à 10 minutes avant qu'on ne prenne le volant. Et ça se traduit en général par des modifications importantes au point de vue comportemental. Hein, et en particulier à ce moment-là, hein, on est agressif, on est excité, hein, on n'estime pas le danger. Et le troisième cas de figure, la personne qui plusieurs heures après a encore 0,5 g dans le sang, est une personne qui s'est intoxiquée d'une manière sévère des heures avant et qui se trouve sur la pente descendante, celle pendant laquelle en général on a tendance à dormir, voire à se trouver dans le coma.
Malgré ces effets, certains prennent toujours le volant. Sydney, François, Bertrand et Maxime sont ou ont été conducteurs. Ils ont tiré différentes leçons de leurs expériences.
Je conduis toujours en ayant bu. Bon, je conduis plus en étant complètement beurré. Ça, c'est vrai. J'essaie d'éviter de prendre la voiture, mais des fois, j'ai pas le choix, tu vois. Si j'ai bu une dizaine de bières ou quoi, je vais la prendre. Enfin, si je vois que ça va, en fait, c'est ça le truc. Si je vois que ça va pas, je vais pas la prendre, je vais éviter. Ou alors, maintenant, vu que j'ai pété deux voitures, quand je suis dans ma région, enfin, la région où il y a ma mère, parfois, elle me redépose comme avant.
J'ai un ami qui a eu un accident de voiture assez grave à cause de son état d'ébriété et qui est resté dans le coma un bon petit moment. Puis ça reste en tête malgré tout, même quand on est dans un état d'ébriété. Et donc j'essaie toujours de trouver le plus de solutions possibles pour pas conduire en état d'ébriété après une soirée.
Je continue au sens propre comme au figuré, donc à boire mes canettes. Quand je suis dans la voiture et que j'ai envie d'une bière, ou deux, ou trois, ou quatre, quand je fais un long trajet, je bois ma bière, je continue à conduire.
Je pense avoir vraiment pris conscience des dangers que je peux risquer, des dangers que je peux commettre aux autres ou à moi-même, et aussi des risques encourus comme ces sanctions, l'amende. Donc à partir du moment où je gagne ma vie, je trouve que si je sors une fois que je bois un verre de trop, je peux prendre le taxi, parce que c'est une histoire de 20 euros.
L'ivresse au volant tient surtout de la responsabilité du conducteur lui-même.